le public se presse en nombre au soir du 22 novembre 1928 dans les couloirs et les travées du majestueux Théâtre National de l'Opéra, au cœur du rutilant Palais Garnier. Sous la baguette de Walter Stram, l'orchestre et les ballets d'Ida Rubinstein enchantent le public dès le premier soir. La critique parisienne vante la somptuosité, tandis que Le Figaro souligne les dons singuliers de Ravel, dont ce nouvel opus est décrit comme puissant, coloré et lancinant. Si le public présent se régale de ce délice d'élégance, Ravel brille par son absence. Non pas qu'il s'en désintéresse, mais le même soir, le virtuose français donne un concert à l'ambassade de France à Madrid en l'honneur de l'inauguration de la Casa Velázquez. Il est de retour à Paris pour la quatrième et dernière représentation au soir du 4 décembre. Le Boléro prend ensuite la route des plus grandes scènes. Milan, Vienne, Monte-Carlo, New York, un triomphe. De son chef-d'œuvre, Ravel disait « Le Boléro, il est vide de musique. Comprenez, ce ballet composé en moins de 3 mois utilisait l'orchestre comme un laboratoire instrumental, mais il s'inscrivait surtout à contre-courant de la musique occidentale du moment. » Ravel, célébré partout à travers le monde, profite peu de sa nouvelle fortune. Il vit reclus en solitaire dans sa maison de Montfort-l'Amaury, dans les Yvelines. 9 ans plus tard, il s'éteint le 28 décembre 1937 d'une maladie cérébrale. Il n'a aucun héritier. Commence alors une extraordinaire saga judiciaire et médiatique autour des droits d'auteur que génèrent les 17 minutes du célèbre Boléro composé par Maurice Ravel. En France, il est resté à la première place du classement mondial des droits de la SACEM jusqu'en 1993. Chaque année, l'indémodable valse rapportait environ 1,5 million d'euros dans les caisses. Un pactole colossal qui va aiguiser de solides appétits. Maurice Ravel n'a laissé aucun testament. À son décès, c'est son frère cadet Édouard, un industriel qui vit à Saint-Jean-de-Luz, qui devient légalement l'héritier de l'œuvre. Il crée la fondation Maurice Ravel qui transforme le Belvédère, la maison du compositeur disparu, en un musée à sa gloire. En 1954, Édouard Ravel et son épouse, Angèle Bonnet, sont victimes d'un grave accident de la circulation sur la route qui les mène à Lourdes. Le couple en ressort extrêmement diminué. Édouard fait la connaissance de Jeanne Taverne, une vendeuse de colibris âgée de 48 ans. Il l'embauche aussitôt en qualité de masseuse. 2 ans plus tard, Angèle décède des suites de l'accident. Jeanne Taverne devient alors la gouvernante de la maison. Avec Alexandre, son mari, un ancien mineur devenu chauffeur, elle s'installe dans la villa lusienne. Un dévouement plutôt intéressé. Jeanne sait en effet qu'Édouard Ravel est riche, très riche.